sont sous le contrôle de cette guérilla, ou au moins la guérilla est-elle active dans 223 de ces districts. C'est-à-dire, vous voyez, dans plus d'un tiers de l'Inde, cette guérilla est présente. Guérilla maoïste, pour nous, c'est des vieilles choses. Guérilla, on n'en parle plus encore de subsistance en Amérique latine. Mais le maoïsme est bien loin derrière nous. Et pourtant, cette guérilla a repris du poil de la bête. Elle date de 1967. Elle était née, elle s'était développée dans le contexte historique de l'époque, celui de la guerre froide, de la présence de la Chine, des liens entre l'Inde et l'URSS. Et puis elle était tombée un peu en désuétude, vivant du racket sur l'habitant. Et puis, à partir de 2004, des éléments épars de cette guérilla se sont réunis et ont retrouvé de la force, et d'autant plus de force qu'il y a à l'évidence un soutien de la population. Est-ce que ça veut dire que la population est devenue maoïste? Pas tellement, sans doute pas. Mais cette population est très pauvre, à l'abandon depuis très longtemps. Ce sont des hors-castes, des adivasis, comme on dit, c'est-à-dire aussi, on dit des tribaux, des gens qui vivent en tribus. Il y a de nombreuses tribus en Inde, au total, on estime entre 80 et 100 millions les gens qui vivent de cette façon et qui sont à l'abandon, qui sont livrés à eux-mêmes depuis fort longtemps, livrés à eux-mêmes en ce sens que ni l'État central, ni les États régionaux ne font d'efforts pour les écoles, pour la santé, pour les infrastructures. Si bien que c'est une très grande pauvreté qui sévit dans ces régions, et en l'absence d'État et avec cette grande pauvreté, eh bien cette guérilla a pu s'implanter et croître et embellir et se renforcer avec des éléments, on estime, entre 10 et 20 000 militaires, d'hommes et de femmes en armes, et des soutiens logistiques importants qu'on estime, là aussi les chiffres varient beaucoup, mais entre 50 et 100 000 qui les soutiennent à travers le pays, sans parler des populations qui, encore une fois, bien que raquettées, bien que devant payer l'impôt révolutionnaire, trouvent là un soutien dans leur lutte face à ce pouvoir qui est cet État et ces États, puisque cette guérilla est présente, je le disais, dans nombre d'États. Cet État qui a plutôt tendance à les opprimer, récemment, vu les appétits d'un certain nombre d'entreprises nationales ou internationales qui visent les ressources de ces régions, et notamment du Chhattisgarh. Il y a là un gisement important de bauxite qui intéresse les grandes sociétés qui disent « Oh, on va investir dans ce coin-là, mais à la condition que l'État local, comme fédéral, fasse le ménage. Faire le ménage, c'est-à-dire se débarrasser de ses habitants, les déplacer et se débarrasser surtout de cette guérilla, ce qui ne va pas être simple du tout, parce que ce sont des combattants aguerris qui sont incrustés depuis longtemps dans la jungle, et jusque-là, les tentatives de les déloger ne se sont pas avérées de grandes réussites. Voilà où nous sommes. Et au milieu de ça, il y a cet homme, Himanshu Kumar, dans son ashram, assis en tailleur, dans la position du lotus, sous son arbre immense, qui est là, qui est immobile, qui réfléchit et qui attend les gens qui viennent, qui se succèdent auprès de lui pour lui demander aide, conseil, refuge. Et il se met à leur disposition, il les aide autant qu'il peut, jusqu'à ce que l'ashram en question ait été démoli, détruit un beau matin. 500 soldats étaient autour de son ashram et l'ont détruit. Et il s'est donc déplacé, c'est à quelques centaines de mètres. Il a reconstruit un local, c'est là que nous l'avons rencontré, mais nous avons appris qu'il a été à nouveau arrêté depuis que nous l'avons rencontrés et qu'il se réfugie désormais.